Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et culture pop.
Chers popophiles, popovores et popophages de tout poil, nous voici réunis pour une nouvelle version de Pop en stock transatlantique. Nous avons à nouveau la chance de recevoir Benoît Tadier. Bonjour Benoît.
Bonjour Antonio.
Cette fois-ci, au sujet donc de l'édition des œuvres des romans noirs de Horace McCoy dans la prestigieuse collection Quarto de Gallimard. Benoît, tu es le grand spécialiste du roman noir américain, je dirais non seulement dans la sphère francophone, mais aussi dans la sphère, on peut dire, mondiale, puisque tes deux ouvrages consacrés à la question, le polar, la modernité et le mal et front criminel, tracent vraiment le panorama critique de cette vaste production qui, rappelons-le, puisque ça va concerner aussi très directement le sujet d'aujourd'hui, l'œuvre de McCoy, aura connu une réception beaucoup plus forte, en tout cas plus légitime en France qu'aux États-Unis, ce qui semble avoir été le paradoxe depuis même l'époque d'Edgar Allan Poe, qui, comme on le sait, traduit par Baudelaire, a eu un statut en France et en Europe qui a étonné les Américains. Et depuis, on dirait que c'est ce qui s'est souvent reproduit dans le genre et c'est ce qui, on va le voir, est arrivé pour McCoy. Alors, on dirait que ton œuvre, Benoît, prolonge ce mouvement. Il est vrai qu'il y a un intérêt quand même, tu en parles ailleurs, une sorte d'effet boomerang où les Américains ont redécouvert à partir des années 80, à partir de l'intérêt constant qu'avait montré notamment la série noire de Duhamel, ont redécouvert finalement leur propre tradition, ce qui était arrivé pour le film noir, l'expression film noir française des critiques français étant utilisée en anglais, donc de film noir. Je pense qu'il y a quelques ouvrages comme les ouvrages de Lee Horsley, par exemple, etc., qui ont aussi retracé l'histoire du noir. Mais ceci dit, je pense que ton diptyque est assez singulier et trace vraiment un panorama très complet. Tu avais déjà fait l'édition d'un autre grand du hardboiled, du roman noir, Burnett, et cette fois-ci, c'est McCoy. Alors, pourquoi McCoy?
Pour un certain nombre de raisons, des raisons très générales qui sont que, comme les grands auteurs de romans noirs qui ont été publiés dans les années 40 et 50 en France, il était urgent de donner des versions presque plus respectueuses du texte original en français, car à l'époque, ces traductions qui avaient leur charme et leur mérite avaient quand même aussi pas mal de coupes, comme on sait. Quand il s'agissait de publier dans la série noire, on avait des contraintes d'espace, parfois aussi quelques petits a priori idéologiques sur les textes, et donc les textes étaient un petit peu normalisés pour entrer dans la collection. Aujourd'hui, on est dans une perspective différente, où on cherche quand même plus de fidélité au texte original. Donc, depuis, disons, presque 75 ans que ces textes ont été publiés en français, je crois qu'il était vraiment temps d'en donner des versions qui soient un peu différentes et qui permettent aux lecteurs d'aujourd'hui, puisqu'on a quand même affaire à d'autres générations de lecteurs, de mieux apprécier ces textes, et puis aussi aux lecteurs français qui avaient connu les textes dans les anciennes traductions, de pouvoir apprécier la différence, et je pense qu'elle est quand même assez grande. Voilà, il y a des choses qui manquaient, il y a des choses qui étaient déformées, il y a pas mal de différences qui font qu'aujourd'hui, le McCoy qu'on découvre dans Quarto, je pense qu'il est assez différent de celui qui avait été rencontré autrefois par les lecteurs de la série noire ou de la collection blanche, puisqu'il avait eu le privilège assez rare d'être publié dans ces deux collections au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a ça, il y a la volonté de donner de bons textes, et il y a aussi le fait qu'il y a aujourd'hui, je pense, chez les éditions Gallimard, une volonté de revaloriser leur fonds historique, qui est aussi assez importante. Ils se sont longtemps, disons, ces derniers temps, préoccupés plutôt des nouveaux auteurs de romans policiers plutôt que de la revalorisation de leur propre fonds. Mais je crois que l'heure est aussi venue en France, disons, de considérer que les grands auteurs de romans noirs sont aussi des grands auteurs américains tout court, et donc de leur donner aussi des éditions dignes de ce nom, c'est-à-dire pas simplement redonner le texte, mais aussi des introductions, des notices, des à côté historiques et biographiques qui permettent de les resituer quand même dans une histoire à la fois du genre et de la littérature américaine, et puis dans l'histoire des États-Unis en général. Donc voilà, c'est un peu pour répondre à tous ces impératifs-là, mais au fond, surtout avec la conscience, qui est la mienne en tout cas, que McCoy est un écrivain qui mérite d'être lu, et lu dans de bonnes conditions. J'ajoute qu'aux États-Unis, il n'a malheureusement pas l'équivalent de ce genre de travail, même si bien sûr on a des textes anglais qui sont corrects, puisqu'eux n'ont pas eu besoin d'être traduits, quoiqu'ils aient été un peu trafiqués parfois par les éditeurs. Mais il n'y a pas eu de bonne réédition, ni de travail critique autour de ces textes. Je pense que c'est peut-être aussi une façon d'essayer d'encourager nos amis américains de l'autre côté de l'Atlantique que de montrer que ça peut être fait en France.
C'est la National Library qui a commencé depuis quelques années.
Grâce à son directeur qui était lui-même un fan de polar qui s'appelle Jeffrey O'Brien et qui a écrit un des grands classiques sur le genre qui s'appelle Hard-Boiled America. Il a été assez longtemps directeur de la Library of America jusqu'à il y a 2 ou 3 ans et il a effectivement fait cette petite révolution qu'on attendrait d'ailleurs toujours la Pléiade chez nous qui consiste à publier des romans noirs dans cette édition qui est un petit peu comme la Pléiade, disons le canon américain. Il y a effectivement eu des recueils de romans noirs américains des années 30, 40, 50 et puis de certains écrivains en presque intégrale comme Hamage ou Chandler ou David Goodis. McCoy, lui, il n'avait eu droit qu'à un seul roman dans un volume consacré aux années 30 où il y avait aussi James Cain, par exemple, le facteur sonne toujours 2 fois, un auteur auquel on l'a souvent comparé d'ailleurs, même si ça ne lui plaisait pas trop. Donc il était voilà, un peu pris là-dedans, mais il n'a pas encore eu droit à une édition complète de ses propres textes tels qu'on essaye aujourd'hui de la donner au lecteur français.
D'où l'originalité donc que j'évoquais, très curieuse, du regard français qui a finalement réinventé à la fois la série noire et le film noir par le regard tout à fait particulier porté par les Français, tradition que d'une certaine manière tu parachèves. Aussi intéressant du côté de Gallimard, il y a toujours une schizophrénie quand même entre leur collection blanche et leur série noire. On dit souvent que c'est la série noire qui a vraiment fait les choux gras de Gallimard et que c'est grâce à la noire que la blanche pouvait vivre, mais dans un truc un peu de Jekyll and Hyde, où finalement, avec cette symbolique très forte du blanc et du noir, comme une sorte de partie honteuse dont on ne voulait pas nécessairement parler. Alors là, c'est très blanc, l'édition Quarto est très blanche, c'est un très beau volume d'ailleurs, et je pense que c'est une belle chose que le noir se retrouve dans le blanc, et c'est vrai qu'on espère que le mouvement se poursuive. McCoy est une figure tout à fait majeure et en même temps assez paradoxale dans l'histoire du noir. Comme tu avais fait pour Burnett, il y a une très grande introduction, un appareil critique très intéressant, une chronologie tout à fait fascinante qui vraiment nous donne un autre aperçu de ces textes. Il faut se rappeler que, comme tu évoquais, les textes avaient été découverts dans des éditions très trafiquées, notamment l'obsession de séries noires qui en fait le charme, mais en même temps les limitations de l'argot. Tout était argotisé beaucoup plus que dans les originaux américains ou britanniques. On découvrait des textes qui avaient beaucoup de charme, etc., mais qui étaient souvent très isolés. Et alors, tu intitules ton introduction « Un Américain peu tranquille », qui est une belle expression. Tu reprends ça d'une thèse que tu cites comme étant le travail vraiment de base sur McCoy, c'est Thomas Turak, Life and Writings of Horace McCoy, qu'on peut consulter par Internet. Quelqu'un qui s'est beaucoup réinventé, c'est McCoy. Tu pars d'une scène assez intéressante qui est une sorte de scène primordiale, une urzène freudienne reliée à la promiscuité des classes ouvrières dans le patelin où McCoy est né à Pigram, au Tennessee. Et pour toi, c'est une scène qui explique beaucoup de choses dans le travail de McCoy.
Oui, alors c'est assez intéressant. D'abord sur cette histoire de la biographie des écrivains de polar, c'est ce qui nous manque le plus. Heureusement, en France, on a eu droit à un beau volume fait par Claude Mesplède et Jean-Jacques Chéret qui s'appelle « Les auteurs de la série noire » et qui a été fait à partir des archives de la collection et qui a permis de donner pas mal d'informations sur beaucoup de ces auteurs, mais qu'on aime bien en peine de trouver ailleurs. Et donc, on a ce paradoxe d'avoir des centaines d'écrivains dont on ne sait pratiquement rien. Alors, petit à petit, heureusement, ça commence à revenir à la surface. Mais c'est une preuve du manque de considération dont ils ne jouissaient pas, disons. C'est des gens qui étaient obligés de faire 50 métiers différents pour survivre et qui ont connu beaucoup plus d'expériences de vie, disons, notamment de guerre. D'ailleurs, la guerre pour McCoy, c'est important. Donc, cela posé, en effet, il y a cette scène de son enfance sur laquelle il revient dans 1 ou 2 lettres et en même temps qui transparaît dans ses romans de manière un petit peu oblique et qui renvoie à son enfance très pauvre, dit-il, dans le Tennessee, dans ce petit bled de Pigram où vivait sa famille, dans une seule pièce. C'est un peu une scène primitive freudienne. Il était dérangé par les activités sexuelles de ses parents au moment où lui était tout petit et comprenait pas ce qui se passait. Et il semble en avoir conçu une espèce de mortification profonde. Peut-être pas la scène elle-même que le fait qu'on l'envoie promener quand il pose des questions et qu'ensuite il est obligé de finalement essayer de comprendre ce qui se passe. Il dit en regardant à travers le trou de la serrure ou à travers des fentes de palissade à droite et à gauche. Et c'est quelque chose qui semble l'avoir perturbé, puisque ce qu'on remarque quand on lit ses romans à la suite, c'est qu'il y a quand même une espèce de sexualité morbide qui s'exprime d'un bout à l'autre, notamment d'angoisse de la castration, Il n'y a pas, par exemple, de rapport sexuel entre les couples qui sont sur le devant de la scène dans la plupart de ces romans importants. Par exemple, dans On achète bien les jumeaux, l'homme et la femme qui sont partenaires du marathon de danse n'ont pas la moindre attirance sexuelle. En revanche, lui, il devient un petit peu le héros, si on peut appeler ça un héros, une sorte de gigolo au moins symbolique, une vieille dame qui le prend sous son aile et avec laquelle, d'ailleurs, il a plusieurs fantasmes sexuels qui, en fait, ont été d'ailleurs coupés du manuscrit par McCoy lui-même dans la première version de ce roman. Donc, il y a des choses assez profondes comme ça, assez troubles, qui reviennent aussi à la fin de son quatrième et dernier grand roman, je pense, qui est Adieu la vie, adieu l'amour. On voit effectivement comment la psyché malade du narrateur tueur prend son origine aussi dans une espèce de scène d'inceste primitive avec sa grand-mère ce coup-ci. Donc, on retrouve encore le décalage d'âge et de génération, et puis une espèce de traumatisme lié à la sexualité infantile. Je crois qu'il y a deux aspects chez McCoy. Il y a le roman social contre l'injustice, la croisade du héros, etc. Mais il y a aussi toute une série plus compliquée à saisir peut-être de troubles intérieurs qui sont liés, à mon avis, à cette scène primitive et qui font que ce personnage est finalement doublement inquiet, comme je disais, pas tranquille aussi, parce qu'intérieurement, il est bouleversé par ses fantasmes associés à cette scène primitive. Et puis, socialement, il n'est jamais à sa place non plus. Il essaie de se battre à la fois pour trouver sa place et peut-être pour un monde meilleur également.
Effectivement, la condition sociale est déterminante, comme tous ces écrivains hard-boiled. Il commence à travailler à 12 ans, il quitte l'école à 16 ans, occupe différents emplois. Et la première grande expérience, finalement, ça va être la Première Guerre mondiale. Il devient bombardier, observateur aérien en France en 1918. Et il obtiendra la Croix de guerre pour héroïsme. Mais la version qu'il donne, la vision dans sa correspondance, il n'est pas que héroïque. Et tu cites deux scènes assez impressionnantes dans sa correspondance. Une, c'est une lettre sur un coup d'obus qui littéralement pulvérise quelqu'un à ses côtés. On entend juste zip bang, j'ai vu un type en prendre un, percuter directement. Eh bien, ça l'a frappé au creux de l'estomac, ça l'a étalé sur plus de deux fois sa taille. Je n'avais pas la moindre idée qu'il y avait autant de choses dans un humain avant de voir ça. Ils l'ont versé à la pelle dans une fosse commune. Et là, on sent que dès la correspondance elle-même, le hard-boiled est là. C'est une description totalement hard-boiled. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a déjà un travail d'écriture? Finalement, ce qui est très intéressant, c'est que dans la guerre, on est avant le début du hard-boiled, donc 1922-1923, les premiers textes hard-boiled. Et donc, on voit qu'il y a déjà cette écriture. Et puis, il décrit, trois mois après l'armistice, aussi une image très frappante. Et le rôle des images va être reconnu par l'éditeur de Black Mask dans l'écriture de McCoy. C'est les cadavres d'un Américain, un Junk et un Jerry, donc un Américain et un Allemand. Ils étaient tous deux morts et allongés face à face. Le Junk avait sa baïonnette plantée dans le cœur du Jerry. Et le Jerry avait sa baïonnette plantée dans le cou du Yank. Et cette vision complètement dantesque, on est trois mois après l'armistice, mais les cadavres sont encore là dans le champ de bataille. Et c'est des images très fortes et tu renvoies à l'élaboration par Freud un an plus tard de sa notion de pulsion de mort.
Alors effectivement, je pense que le hard-boiled, il vient directement de la Première Guerre mondiale, par certains côtés en tout cas, puisque d'abord le mot lui-même, le mot américain vient de la Première Guerre mondiale et c'était le seul mot d'argot, disait un linguiste, Mencken, qui a été inventé par les soldats américains en France et qui soit revenu avec eux aux États-Unis et qui est persisté dans la langue américaine après la guerre. Donc ça veut dire quand même qu'il correspondait à une réalité qu'on n'arrivait pas à nommer avant puisqu'il s'est imposé. Et cette réalité, c'est vraiment effectivement celle des soldats qui se sont endurcis face à ce spectacle de violence totale et traumatisante que pouvait être la guerre. Il faut imaginer que McCoy avait 20 ans, comme tous les soldats. D'ailleurs, on oublie souvent que les guerres sont faites par des gamins, en général. Enfin, c'est des gens qui sont à peine sortis de l'adolescence et qu'on balance d'un coup au milieu des pires horreurs. Je pense que ça crée un effet soit de traumatisme total, soit, pour réagir contre ça, d'endurcissement, de détachement. Et c'est un peu ce qui est arrivé. C'était un peu l'éthos dominant parmi ces soldats qui se sont endurcis et qui ensuite, en revenant aux États-Unis, amenaient avec eux cette attitude un peu dure qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez ces autres personnages qui sont souvent d'anciens guerriers que sont les gangsters, mais qui restent un petit peu des guerriers dans le monde civil ensuite, qui sont également des durs à cuire, pas sentimentaux, qui décrivent de manière très détachée et cynique le monde autour d'eux. Donc je pense que c'est de là que vient cette écriture, qui n'est donc pas une écriture, comme on dit parfois, behavioriste, au sens où elle ne s'intéresserait pas à l'intériorité des gens, mais qui est plutôt une écriture qui, à mon avis, cache les chocs et les traumatismes profonds derrière une apparence de détachement, en fait. mais ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien, bien au contraire. Donc je crois que c'est un peu ça qu'il montre dans ses lettres. Elles sont assez fragmentaires parce que, bien sûr, comme toutes les lettres de soldats, elles étaient soumises à la censure et ce n'est donc qu'après la guerre, quand il était encore stationné en France après l'armistice, qu'on trouve ce genre de descriptions qui reviennent sur des épisodes qu'il avait vécus pendant la guerre. Et puis cette deuxième scène, effectivement, qui est très frappante, celle de la découverte des deux cadavres, on peut imaginer ça 3 mois quand même après l'armistice, alors qu'il y avait déjà tout un tourisme qui s'installait des tranchées, des champs de bataille, parce que c'est ce dont il parle aussi, tout à coup tomber sur cette image terrifiante. Qui rappelle en effet ce que dit Freud sur la pulsion de mort. On sait qu'il a développé cette théorie dans un ouvrage de 1920, Au-delà du principe de plaisir, et qu'il commence par l'analyser à propos justement de vétérans de la Première Guerre mondiale qui n'arrivent pas à dépasser dans leur comportement le traumatisme causé par le vécu de scènes de violence intense. Soit qu'ils en rêvent tous les jours, soit qu'ils ont des gestes répétitifs ou compulsifs qui renvoient à ça, d'où peu à peu la théorie freudienne de la pulsion de mort. Ici, je pense qu'on a une sorte d'équivalent de cela, ces deux personnages qui, dans la mort, sont encore en train de s'empaler l'un l'autre. C'est finalement une illustration assez frappante de ce que Freud pouvait vouloir dire par cette pulsion de mort, et elle est d'autant plus frappante que 3 mois après la guerre, tout le monde a envie de tourner la page, on est au moment de la conférence de Paris, du traité de Versailles, etc. Mais lui reste encore sur cette image et je pense que finalement, quand on regarde l'esthétique de McCoy, on se rend compte que les moments les plus intenses, ce sont souvent des arrêts sur images de cadavres qui semblent, à mon avis, en tout cas, répéter un petit peu cette expérience-là et notamment l'arrêt sur image du début de « On achève bien les chevaux », 15 ans plus tard. Qui est aussi un visage de femme immobilisé au moment où on lui tire une balle dans la tête. Il y a aussi une nouvelle qui s'appelle « Mort à Hollywood », qui est une belle nouvelle d'ailleurs inédite en français, qu'on publie également dans le volume, où on a une image similaire. C'est une femme qui a été tuée, mais qui a été transformée en une espèce de mannequin, de statue, un peu comme dans les films d'horreur, avec l'expression qu'elle portait au moment de sa propre mort sur son visage. Donc, il y a toutes sortes de déclinaisons de ce thème, mais je pense qu'au fond, ça revient un peu à ça, au traumatisme de la rencontre avec la mort violente, et que le roman noir, chez lui, comme chez Raymond Chandler, par exemple, autre personne traumatisée par la Première Guerre mondiale, le roman noir est finalement aussi une façon de peut-être digérer des expériences très fortes et trop fortes même pour être verbalisées autrement, connues pendant la Première Guerre mondiale. J'ajouterais d'ailleurs qu'on publie aussi à côté du Quarto un autre volume très intéressant dans la série noire qui s'appelle « Les Rangers du ciel » et qui est un recueil des 14 nouvelles d'aviation policière écrite par McCoy entre 1929 et 1934 pour la revue Black Mask. Ce sont des Rangers qui patrouillent à bord de leurs petits avions la frontière avec le Mexique, c'est tout à fait intéressant, ils se battent contre des contrebandiers qui aussi pilotent des avions, mais on se rend compte très vite que finalement tout ça n'est qu'une sorte de transposition un petit peu romancée des expériences d'aviateurs de McCoy pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, je pense que le noir et le Rainbow, c'est une sorte de distillation au long cours de ce qu'a pu être l'expérience de la guerre. Et puis, ce sera pareil d'ailleurs pour les guerres qui suivront, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam. C'est toujours un genre qui est assez propice finalement à ce genre de narrativisation, on peut dire, d'une expérience traumatique ou trop difficile à raconter autrement.
C'est tout le problème de la démobilisation, le retour dans la vie civile après cette sorte de plongée dans la barbarie de la mort industrielle. Et effectivement, ce traumatisme que tu as associé dans tes ouvrages sur le noir à la figure du gangster qui emmène la guerre, brings the war back home, amène la guerre au cœur de l'Amérique. McCoy, quant à lui, devient journaliste sportif de 1919 à 1930. Ça va à Dallas. Ça va avoir une grande importance puisqu'il lance un magazine qui s'embarque dans une sorte de croisade contre la corruption. On est dans l'Amérique, évidemment, des années de la prohibition, des années du gangstérisme, des années de grande corruption généralisée des institutions, etc., etc. C'est cette expérience qu'il va transposer dans No Pockets in a Shroud, qui va devenir une sorte d'amplification hard-boiled de ce que peut-être McCoy aurait souhaité être, donc cette sorte de justicier courageux et tragique qu'est Dolan dans le roman.
Il a quand même vécu 10 ans comme ça, journaliste, et assez bien d'ailleurs. Je crois qu'il s'est incrusté au début en faisant croire qu'il avait déjà été journaliste, ce qui n'était pas vrai. Enfin, c'était un grand opportuniste et arriviste en même temps. mais doué. C'était un grand sportif, il était presque champion en tennis, en football américain, il pilotait des avions, enfin c'était un colosse aussi physiquement, et puis un grand séducteur, enfin il avait beaucoup de choses pour lui. Il était également acteur de théâtre assez doué, puisqu'il a joué dans le théâtre expérimental de Dallas, le Little Theatre, pendant plusieurs années, jusqu'à obtenir assez rapidement des premiers rôles dans les pièces. Il a gagné quelques trophées dans des compétitions nationales entre ces petits théâtres de différentes villes. Donc c'était quelqu'un qui était bourré de talent, mais qui n'avait absolument aucun statut et qui voulait surtout arriver à deux choses. L'une, c'était devenir metteur en scène de cinéma, c'était un peu un de ses rêves. Et l'autre, c'était devenir écrivain. Mais en fait, étant plein de talent, il voulait réussir partout. Il se voyait dans certaines lettres, il dit ça de manière un peu naïve, presque comme un homme de la Renaissance, capable d'être un génie dans toutes sortes de domaines. Alors évidemment, c'était beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité. Et comme c'était quelqu'un de profondément inquiet, il ne s'est pas satisfait très longtemps de ses succès relatifs dans le journalisme de Dallas. Et au bout d'un moment, peut-être aussi parce qu'il avait des ennuis, il était en bisbille avec le rédacteur en chef, il avait un mode de vie totalement extravagant, donc il était perpétuellement dans le rouge. Mais au bout d'un moment, il s'est disputé avec le rédacteur en chef du journal, le Dallas Journal, pour lequel il avait travaillé pendant 10 ans. Et puis, il a commencé à dénoncer les compromissions de ce journal en disant que c'était un journal qui était lâche, qui ne s'élevait pas contre les puissances maléfiques de la ville. Et donc, il a claqué la porte en 1929. Mais ça correspond vraiment à une grande crise dans sa vie, puisque c'est le moment où il divorce de sa première femme. C'est aussi le moment où il commence à écrire pour Black Mask de manière régulière. Il avait déjà écrit quelques nouvelles, mais c'est là où vraiment ça lui permet de vivre. Et puis, il s'engage donc dans l'aventure de ce magazine qui s'appelle « The Dallas Sight ». Comme le nom l'indique, est fondé en fait sur le modèle du New Yorker, c'est-à-dire une espèce au départ de revue un peu élégante et chic et un peu culturelle qui chante la culture locale de Dallas et du Texas. Et très vite, il prend les rênes de ce magazine et il le transforme en une espèce d'organe de dénonciation de la corruption, des compromissions, de scandales, de trafic, notamment dans le monde du sport. Alors il se lance dans une grande croisade, mais qui n'aboutit absolument à rien, contre des soi-disant trucages dans le monde du football américain. Et puis ensuite, il infiltre aussi le Ku Klux Klan pour essayer de faire un reportage, mais qui apparemment ne donnera rien non plus. Il accuse Dallas d'être la nouvelle Chicago du sud des États-Unis et il obtient même qu'il y ait une enquête du grand jury, mais qui tournera court. Bref, on a l'impression vraiment d'une sorte de Don Quichotte qui se lance un petit peu dans une sorte de croisade de justicier tous azimuts, mais qui finalement est peut-être un peu plus imaginaire qu'autre chose et qui trouvera donc un exutoire naturel à la fin dans son roman, ce qui est Un linceul n'a pas de poche et qui est l'histoire de la croisade d'un journaliste contre les puissances mauvaise de sa ville. Sa ville, c'est Dallas, même si elle ne s'appelle pas comme ça dans le roman. Elle est fondée dessus. Et là, au contraire, justement, on voit qu'il arrive de véritables ennuis aux héros et pas du tout les pseudo-ennuis que McCoy a connus dans sa vie. C'est une espèce de réalisation fantasmée un petit peu de ses propres aspirations. Mais je crois qu'on peut dire ça de tous ses livres. Finalement, ils sont extrêmement autobiographiques. Même s'ils sont très différents dans leurs histoires et leurs personnages, on reconnaît toujours une base biographique assez forte.
Oui, c'est une des forces du hard-boiled, parce qu'on le savait pour Hammett avec ses expériences comme détective à Pinkerton, etc., etc. C'est une des forces que d'avoir donné l'expression. Ben, c'était le conseil que donnait Hemingway toujours aux écrivains. Et on a beaucoup dit que le hard-boiled était une école hemingwayesque. Mais il disait toujours, n'écris que sur ce que tu connais. Et ça, c'est un ethos très états-unien de l'écriture, mais qu'on voit très fortement à l'œuvre dans le hard-boiled. Et ce qui a fait que beaucoup de fois, quand on essaye d'imiter ça dans d'autres contextes, il y a un côté très pastiché, mais c'est non seulement par rapport à la forme du genre, mais je pense aussi c'est par rapport à la réalité du gangstérisme, la réalité de la violence américaine, puisque c'est quelque chose quand même qui est assez unique encore aujourd'hui dans le monde occidental. Le poids des armes et de la violence aux États-Unis le situe vraiment très loin des standards des autres pays occidentaux.
Malheureusement, oui.
Et c'est ce côté-là donc de l'importance de la vie et de la transposition. Il y a d'ailleurs une scène qui m'a beaucoup frappé par rapport à ce lien entre l'écriture et la vie. McCoy découvre sa femme avec son amant. Voici comment il raconte. « Au début, ils ne m'ont pas vu. J'ai battu en retraite, je suis allé à la cave et ai pris mon automatique de l'armée, un calibre 45 qui vous creuse dans le corps un trou assez large pour y faire passer un train. Je ne voulais pas prendre des risques, je voulais faire du travail soigné. Je voulais vraiment les tuer. » Je m'en souviens très clairement. Je suis retourné dans la chambre avec les pistolets, ils m'ont vu. Tout d'un coup, je n'ai plus du tout eu envie de les tuer. tout d'un coup, c'est devenu très, très drôle. Et ça, c'est fascinant parce que c'est l'expression par McCoy de sa réelle expérience, mais on a totalement l'impression d'être dans un roman noir. D'ailleurs, c'est une scène qui va être transposée, mais inversée dans le roman. Mais il y a une continuité assez fascinante.
Oui, bien sûr. Et même lui, plus que d'autres, je pense, parce qu'il a aussi, il faut dire quand même, un côté un peu affabulateur dans sa correspondance. Donc, on ne sait jamais si ce qu'il raconte est vrai ou pas. Là, il écrit ça à sa future deuxième femme. Donc, il se peut qu'il raconte un peu des histoires aux frais de la première. Il lui raconte en tout cas pas mal de balivernes sur le fait qu'il a passé 2 ans à déserter, à se balader en Europe après la guerre, ce qui est totalement faux. Donc, on sait qu'il n'est pas à l'abri de dire n'importe quoi dans ses lettres. Je pense que chez lui, l'imagination et la réalité passent leur temps à s'entrecroiser, ce qui fait un peu le charme de ses lettres, mais un peu le désespoir des biographes parfois, parce qu'on ne sait pas très bien si ce qu'il raconte est vrai ou pas. Mais c'est vrai, oui, je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à faire. On connaît les lettres de Chandler, qui sont absolument fascinantes, qui ne sont pas du tout du même ordre. Il se livre assez peu sur sa vie privée, mais par contre, elles sont remplies de choses passionnantes sur la littérature et sa vision du genre, etc. Donc, les lettres de Hammett sont beaucoup plus, finalement, décevantes parce qu'elles sont très factuelles et qu'on sent que c'était quelqu'un de très secret, y compris avec ses correspondants. Et d'ailleurs, ses romans sont probablement les plus énigmatiques de tout le roman noir aussi. Donc, chacun projette un peu sa personnalité dans ses lettres, mais à chaque fois, c'est toujours très intéressant de pouvoir les prolonger. Et puis, on connaît aussi maintenant les lettres de Jean-Patrick Manchette qui ont été publiées récemment, par exemple, qui sont également passionnantes. Donc oui, voilà, c'est là tout l'intérêt de pouvoir enfin considérer ces écrivains comme de vrais auteurs, parce qu'on peut également publier autour des textes de romans policiers qu'on connaît toute une série de documents qui nous permettent d'enrichir la connaissance qu'on en a. Il y a aussi, par exemple, pour revenir à Burnett, le premier auteur de Quarto dont on parlait tout à l'heure, il y a dans ce volume de Burnett quelque chose d'absolument fascinant, qui est une cinquantaine de pages de son journal qu'il tenait à la fin de sa vie, où là aussi, on a des confidences extraordinaires sur sa vision de la littérature, par exemple, sur tout ce qu'il aimait, ce qu'il lisait, comment il voyait les personnages, les écrivains. C'est passionnant. C'est souvent des réflexions d'autodidacte, c'est pas de la critique classique, mais il y a des points de vue extraordinaires profond sur la littérature aussi chez ces personnes-là.
En 1929, il va avoir une autre expérience marquante, comme tous les Américains, c'est la Grande Dépression qui lui fait perdre son emploi et il va entrer dans une vie de galère, comme tous ces personnages du Hard Boil. Il va arriver à Hollywood en 1931, où il va obtenir donc des petits rôles avant de passer à l'écriture de quelques scénarios. Il y aura une vie, d'ailleurs, jusqu'aux années 50, de scénaristes, parfois de films relativement connus du Hollywood classique comme Gentleman Jim de Roald Walsh ou Les Indomptables de Nicholas Ray. Et c'est finalement cette expérience de la galère, de la dépression, de la vie des figurants qui arrivent à Hollywood dans l'espoir d'avoir une carrière, devenir des stars, etc. et qui finalement sont complètement bridés par l'industrie qui instrumentalise tout le monde et qui est un système comme une sorte de condensé du capitalisme, un microcosme de capitalisme sauvage. Et c'est ce qui va nourrir son premier roman, qui est un des grands romans du XXe siècle, On achève bien les chevaux, qui sera traduit par Marcel Duhamel dans la série noire après la guerre et qui va donner à McCoy un statut tout à fait particulier en France, le plaçant parmi les très grands. Donc, c'est un ouvrage qui s'inspire d'une expérience donc réelle aussi, celle d'avoir été un videur lors des marathons de danse que des étranges théâtres de la cruauté, un continent disparu de la culture populaire américaine, tu dis.
Oui, alors ça c'est vraiment son grand livre, je pense, c'est le plus court, mais c'est vraiment le plus frappant de tous, et puis il n'a pas pris une ride quand on le relit, c'est toujours un peu un coup de poing qu'on reçoit dans la figure. Alors comme tu dis, oui, ça correspond à la période où il part à Hollywood. Alors en 1931, il croit avoir sa chance, le directeur du petit théâtre pour lequel il travaillait, Oliver Hensel, a lui-même reçu un contrat à Hollywood, et donc il l'accompagne en pensant qu'il pourra également devenir acteur. On lui a fait miroiter un screen test. Et alors là, je ne sais pas comment les choses se sont passées, c'est assez confus, on n'arrive pas à avoir de renseignements très précis, mais toujours est-il que le test en question rate et que donc il n'obtient pas de rôle. Et là, il tombe assez rapidement dans la misère en réalité. Je crois qu'il a vécu 1 ou 2 ans dans une pauvreté assez grande, notamment sans domicile, dormant dans des bagnoles à droite et à gauche, hébergé de temps en temps par des amis comme Dashiell Hammett, qui était un de ses amis de l'époque Black Mask, bien sûr. jusqu'à ce que finalement il réussisse avec son deuxième mariage à une femme relativement aisée à retrouver une certaine stabilité et puis surtout à reprendre pied comme scénariste au départ de films très modestes, hein, vraiment de série B pendant plusieurs années à partir des années 1933-34. Donc il reprend un peu pied, sans jamais d'ailleurs assurer de sécurité financière, parce que dès qu'il commence à gagner un peu d'argent, il en dépense deux fois plus et il se retrouve immédiatement dans le rouge juste après. Ça a été vraiment quelque chose qu'il a poursuivi toute sa vie. Mais toujours est-il que oui, cette expérience de 2 ans, là encore très romancée par lui plus tard, il dit qu'il a fait 50 boulots différents, piquet de grève, garde du corps d'un gangster, Dieu sait quoi, on n'en sait rien en réalité. On ne sait pas très bien ce qu'il a vraiment fait et pas fait, mais il a certainement connu cette expérience du marathon de danse, parce qu'il en parle de manière extrêmement informée. Je ne sais pas s'il l'a connu comme videur, comme il le dit, ou peut-être même comme concurrence, il a essayé de gagner un peu d'argent en faisant ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est décrit de manière extraordinaire. Alors, ce marathon de danse, pour moi, c'est vraiment son grand sujet, d'une certaine façon, parce que d'abord, c'était quelque chose qui était à l'époque assez répandu, mais qui a complètement disparu du radar. Donc, c'est assez surprenant de découvrir ces espèces de compétitions absurdes qui pouvaient durer des semaines, où il s'agissait donc de danser le plus longtemps possible. Et après, plus tellement de danser, mais même de marcher en faisant des tours de piste. On voit ça assez bien d'ailleurs dans le film qui a été tiré par Sidney Pollack du roman On achète bien les chevaux, bien après la mort de McCoy en 1969, mais qui néanmoins donne une image assez fidèle de ce que pouvaient être ces marathons qui étaient absolument épuisants et puis qui se transformaient un peu au fur et à mesure que les couples devenaient de plus en plus fatigués en spectacle de voyeurisme sadique, une sorte de jeu du cirque moderne, de gladiateurs, où finalement on voyait de pauvres types ou des pauvres dames qui étaient là en train de tourner, à essayer de gagner 10 dollars par-ci par-là, ou une course organisée le soir, sponsorisée par telle marque, etc. Et alors on voit aussi ce qui montre très bien, c'est l'exploitation totalement cynique de ces personnages, par exemple de faux mariages qui sont organisés entre eux pour faire un coup de pub, ou des choses comme ça qui semblent finalement mettre à mal tous les sentiments humains et tous les rituels sociaux dans une sorte de parodie dont le cynisme est total. Certains des grands personnages de ce roman, c'est vraiment les maîtres de cérémonie et impresariaux qui sont capables d'exploiter jusqu'à la corde tous ces personnages comme du bétail sans avoir le moindre sentiment de compassion. Par ailleurs, c'est vraiment une métaphore de l'époque, c'est-à-dire que le marathon de danse, il a été inventé au début des années 20, à l'époque où une sorte d'invention stupide et absurde paraissait, ou de mode, qui correspondait un peu à l'exubérance de ce que Fitzgerald appelait le jazz age, hein, cet âge d'insouciance et de frénésie et d'hédonisme. Donc voilà, les gens aimaient danser, alors ils ne dansaient pas juste une soirée, on a inventé de danser une semaine ou deux ou trois et de battre des records. C'était évidemment aussi la grande époque des records, c'est l'époque du record de Lindbergh à travers l'Atlantique. Il y a toutes sortes de records plus ou moins absurdes qui sont battus à cette époque-là. Mais petit à petit, après 1929, effectivement, on bascule dans une version beaucoup plus sinistre du marathon, qui n'est plus une célébration, disons, de la joie de vivre qu'a pu être la danse avec les tubes de l'époque, mais qui devient une sorte de symbole de la résistance de l'être humain face à l'adversité la plus complète. Donc je crois qu'il a bien montré tout ça. Et puis c'est un prodigieux roman par son rythme. Il arrive à mélanger un petit peu tout, les annonces des maîtres de cérémonie, le public, il mêle des vrais personnages parce qu'il y avait des vraies stars hollywoodiennes qui venaient dans les gradins regarder les figurants tourner, et alors on cite leur nom, etc. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont absolument passionnantes pour la vie de l'époque et tout ça condensé à un récit extrêmement bref et lapidaire, monté de manière très moderne finalement autour de dialogues très rapides. Donc c'est vraiment une expérience assez poignante jusqu'à la fin qui revient d'ailleurs au début, le moment où la partenaire du personnage principal se fait tuer avec cette idée qui est dans le titre qu'on achève bien les chevaux, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de souffrance humaine, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue.
C'est une image absolument incroyable. C'est aussi, comme beaucoup de choses de la culture populaire, quelque chose qui a été énorme. L'industrie de ces marathons de danse employa à son apogée jusqu'à 15 000 personnes. Donc, c'était vraiment une industrie comme pouvaient l'être d'autres formes de performance de la culture de masse, comme le freak show dans Nightmare Alley, etc. etc. C'est vraiment un condensé monstrueux, grotesque de la société de masse américaine, un des grands thèmes du roman noir et du film noir après. Il y a eu quelques anecdotes que j'ai relevées qui sont assez frappantes aussi et qui ont sans doute inspiré McCoy. Le 14 avril 1923, Homer Morehouse, âgé de 27 ans, s'effondre et meurt sur la piste de danse après avoir dansé avec sa partenaire pendant 97 heures consécutives. Et en 1928, Gladys Lenz reçoit un coup de poing au visage de la part d'un partenaire qui semblait souffrir d'une psychose dû à la fatigue, et Lenz a tenté de se suicider peu après. Donc c'est vraiment des anecdotes de cette industrie étonnante qu'on a par la suite assez oubliées, finalement, dans la mémoire collective. Ce qui est assez frappant, c'est de voir que le potentiel d'absurdité et de monstruosité, finalement, incarné dans cette image d'une sorte de joie de vivre frénétique. Ce qu'on a toujours dit du Jazz Age par rapport au traumatisme de guerre, le besoin d'affirmer la puissance de vie et le côté dionysiaque. Mais cet aspect très trouble de la chose, tu dis, McCoy en avait très bien perçu la puissance symbolique. En cette période de crise où toute une population démunie tournait en rond sans espoir de salut, il montrait aussi à travers cette course progressivement gagnée par la férocité et le désordre, la brutalité de l'exploitation capitaliste, la triche érigée en système, la marchandisation et l'animalisation des corps, à rebours de leur glamourisation dans le cinéma hollywoodien, le racisme, la violence, la désintégration des rapports sociaux transformés en misérables simulacres. Le roman est tout à fait impressionnant. Et c'est vraiment super de le recevoir dans la nouvelle version où vous avez conservé une typographie assez intéressante aussi, ce oui. qui va être une des constantes des expérimentations de McCoy.
Alors oui, effectivement, il avait, grâce à quelqu'un d'ailleurs, c'est pas lui qui avait eu l'idée, c'était quelqu'un, un écrivain assez connu qui s'appelle Philippe Van Doren Stern et qui travaillait pour l'éditeur, qui a eu l'idée de mettre la sentence de mort qui alterne, puisqu'en fait toute l'histoire est racontée de manière rétrospective au tribunal au moment où il se fait juger pour meurtre, ce narrateur, et son histoire qui nous permet de comprendre comment il en est arrivé à tuer la femme qu'on le voit tuer au début du roman. Toute l'histoire donc alterne chapitre après chapitre avec l'énoncé de la sentence par le juge. Et alors dans la version américaine originale, cet énoncé commençait par des lettres tout petit calibre et à chaque fois que les mots reviennent, ils deviennent de plus en plus grands jusqu'à envahir totalement la page, ce qui donne en fait, en fin de compte, une espèce d'image de l'écrasement total de l'individu, une fois de plus, sous le poids de cette sanction du tribunal. Ça avait disparu dans la version publiée par Gallimard en 1946, et donc c'est quelque chose que nous avons remis dans la version quarto, heureusement. Je pense que c'était important pour bien sentir que finalement aussi chez McCoy, il y a une dimension un peu expérimentale du texte qu'il a essayé de réutiliser aussi bien dans Un linceul n'a pas de poche que dans Adieu la vie, adieu l'amour. Alors en général, ça se heurtait à l'hostilité de ses éditeurs déjà aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a eu assez de mal à faire passer cet aspect-là. Mais ça montre aussi quand même qu'il avait une ambition esthétique, je pense, notable. Alors qu'on dit souvent que les auteurs de romans noirs sont des gens qui s'intéressent à l'histoire et à vendre leurs textes, mais qu'ils n'ont pas d'ambition esthétique comparable à celle des écrivains légitimes, disons. Et puis l'autre chose qui est importante, je pense, dans cette nouvelle traduction, c'est qu'on a aussi restitué, grâce au traducteur, Michael Bellano, un certain nombre de passages qui avaient été coupés. Il y a à peu près 5 pages qui manquaient, enfin pas en tant que tel, mais il y avait un ensemble de coupes qui devaient monter à peu près à 5 pages prises au total. Et qui avait notamment un rapport avec le corps féminin. Une femme, par exemple, est indisposée, elle souffre de règles, elle est exclue du tournoi parce que l'imprésario a peur qu'elle endommage ses organes et qu'elle puisse plus avoir d'enfants, que ça fasse des problèmes ensuite juridiques. Il est question aussi parfois d'avortement dans des références qui ont été coupées finalement par Marcel Duhamel, sans doute parce que il se disait que ça correspondait pas à l'image un peu glamour du corps qu'on devait garder dans les romans américains, que c'était trop médical ou trop intime, ou peut-être qu'il était trop pudibond, je ne sais pas, mais c'est des choses qui avaient malheureusement disparu de la traduction et qu'on retrouve aujourd'hui. Et je pense que ça change pas mal la perception du roman parce que, effectivement, on sort du stéréotype de ce côté-là. Il y a quand même des choses assez osées sur le corps féminin, la sexualité, et puis c'est d'expériences traumatiques qui avaient disparu ou qui avaient été gommées en partie dans la traduction française. Donc,
l'héroïne, notamment Gloria, tu l'écris, représente en tant que création littéraire une réussite proportionnelle au désastre de sa vie. C'est vrai que c'est elle le point focal oui. de l'œuvre. Et avec elle surgissent des mots qu'on n'avait jamais entendus dans la littérature américaine comme « fuck ». Donc on a beaucoup parlé du terme donc, quand c'est apparu dans la télévision américaine, etc., etc. Mais là, c'est quand même intéressant de voir que c'est dans ce roman.
Et que c'est une femme qui l'emploie et pas un homme aussi, ce qui est quand même rarement le cas à l'époque, disons. Hein. C'est plutôt aux hommes que reviennent la prérogative d'utiliser des gros mots en général, les femmes étant cantonnées dans des rôles souvent un peu plus stricts, sur le plan linguistique en tout cas, alors que là, c'est tout le contraire. C'est elle qui se comporte finalement comme un personnage hard-boiled pur et dur, alors que le narrateur est plutôt un naïf qui comprend pas grand-chose à ce qui se passe autour de lui. C'est elle qui est vraiment, disons, l'intelligence au cœur du récit.
Mais c'est d'ailleurs plusieurs de ses répliques à elle qui ont été coupés, oui. tel cet aveu quand même qui est assez radical. « I've never been laid on a bed in my life. On m'a jamais sauté dans un lit dans ma vie, qui montre bien, contrairement à l'image qu'on a toujours de sorte du passé prude, etc., etc., avant la révolution sexuelle. En fait, on a beaucoup parlé des dirty 30s, c'est-à-dire qu'il y a eu une première révolution sexuelle. Et effectivement, ça montre que dans la dépression, il y a eu un relâchement total des contraintes traditionnelles victoriennes, etc., etc., de la sexualité. D'ailleurs, tu l'évoques dans la biographie de McCoy. Il appartenait à cette sorte de milieu bohème de sexual outlaws bien avant la Beat Generation, qui avait eu des expériences, notamment autour de son expérience de théâtre, qui est très intéressante pour rappeler que ces auteurs constituent dans la littérature pop, pulp, etc. Mais au fond, ils étaient nourris, beaucoup d'entre eux, de contact avec la haute culture de l'époque. McCoy avait joué, par exemple, dans Eugene O'Neill, donc le grand dramaturge des années 20-30 américaines. Finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que le roman noir était lui-même pris dans cette expérience où la haute culture, la culture populaire, etc., etc., était en train de se brasser autour du New Deal, autour de tous ces thèmes-là. Non? La vision très, très crue qui frappe dans ce roman, Edith Walton va saluer un aperçu inoubliable de la dégradation humaine. C'est à la fois, comme tu le dis, un roman social, un roman hollywoodien, un roman noir, un roman existentialiste. Camus et Sartre vont le reconnaître à sa juste valeur, un roman psychanalytique et par certains côtés un roman féministe. Donc c'est vrai que ce qui est étonnant, et c'est avec des œuvres comme celle-ci que le genre va vraiment être plus tard reconnu, et c'est grâce à ça qu'on reconnaît maintenant donc, le roman noir américain comme une partie essentielle de la littérature américaine du XXe siècle. Et puis l'année suivante, il écrit donc « Un linceul n'a pas de poche », qui est quand même aussi un chef-d'œuvre très différent. On a parlé de l'influence autobiographique, mais on peut dire que c'est aussi un roman qui s'inscrit beaucoup plus dans la politisation du roman noir.
Oui, tout à fait. C'est un roman d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de mal à publier, beaucoup plus qu'il a eu mal à publier tous ses romans. Même « On achève bien les chevaux », il l'avait terminé en fait en 1933 et il n'a pu le placer qu'en 1935 grâce à son agent. Il avait un nouvel agent littéraire à ce moment-là, Harold Matson, mais même Harold Matson a eu toutes les peines du monde à placer donc ce deuxième roman. En général, on lui reprochait d'écrire des romans beaucoup trop sombres, avec des fins trop noires, et c'est pour ça que les éditeurs n'en voulaient pas, parce qu'à l'époque, qui était pourtant l'époque de la crise, mais ils pensaient que justement les gens avaient besoin de happy end et que ça faisait mieux vendre. Il s'est toujours heurté à cette contrainte qui peut paraître aujourd'hui assez stupide, mais qui néanmoins lui a vraiment empoisonné l'existence. Donc il a écrit ce deuxième roman qui est effectivement fondé, on l'a dit, sur son expérience de journaliste à Dallas, qui est un roman, comme On achève bien les chevaux, un roman noir hors cadre, c'est-à-dire que ce n'est pas des romans foncièrement policiers, il n'y a pas d'énigmes, il y a beaucoup de violence, mais il y a aussi une structure alors un peu plus épisodique. Dans Un linceul n'a pas de poche, on passe de la violence, de la corruption du journalisme, au trafic dans le sport, et puis surtout à la fin, à la violence raciale, à travers l'exposé d'une organisation type Ku Klux Klan. On passe quand même sur des sujets de violence, mais qui sont des sujets de violence sociale en même temps que criminelle. Donc il a beaucoup contribué à élargir, disons, cet aspect-là du roman noir, soit à introduire de la violence criminelle dans le roman classique, soit à déborder du cadre du roman noir pour faire entrer des sujets sociaux qui n'avaient pas vraiment droit de citer, puis de nouveaux types de personnages et de situations. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été très bien compris non plus, parce que les éditeurs aiment bien avoir des catégories assez étanches, et donc ils ne voyaient pas très bien à quoi correspondait Un linceul n'a pas de poche. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas d'unité d'intrigue, que ça partait un peu dans tous les sens, qu'il y avait de très beaux passages, mais que ce n'était pas très cohérent comme bouquin. Et donc, tous les éditeurs américains l'ont refusé. Et finalement, il n'a pu le placer qu'en Angleterre, chez l'éditeur qui avait déjà publié l'édition britannique de On achète bien les chevaux et qui a accepté de le publier à condition d'y couper pas mal de choses. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il a coupé, malheureusement, parce qu'on n'a pas le manuscrit. On n'a que le résultat. Mais il dit qu'il y avait trop de pornographie dedans et qu'il a été obligé d'en enlever. Voilà ce qui lui est arrivé. Mais c'est,
c'est dommage. Et ça, on n'a pas du tout l'original. Alors.
On n'a pas l'original. Le plus original qu'on a, c'est cette édition anglaise, parce qu'ensuite, quand finalement il a réussi à placer ce bouquin aux États-Unis chez un éditeur de livres de poche, Paperback, New American Library, après la guerre, alors là, il y a eu un véritable massacre, justement en raison du contenu assez engagé et assez militant du roman, parce qu'on était déjà à l'époque de la guerre froide, c'était en 1948, et l'éditeur a voulu enlever tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une affinité avec le communisme. Alors effectivement, dans ce roman, on a une alliance du roman noir avec, je pense, le roman antifasciste de l'époque, c'est de 1936, c'est le moment du Front populaire, et les puissances maléfiques de la ville sont totalement identifiées au fascisme. Il y a tout le temps des comparaisons, par exemple, entre les patrons de presse de l'époque et puis Mussolini et Hitler. Très clairement, l'organisation de type Ku Klux Klan qui est au cœur du récit à la fin est elle-même aussi une image de cette violence fasciste et qui est un fascisme, on peut dire, indigène, un fascisme américain. Néanmoins, est sans cesse mis en parallèle avec le fascisme européen à l'époque de la guerre d'Espagne qui commence, etc. Donc il y a toute cette dimension, et je pense qu'il y a même quelque chose qui est vraiment très éloquent, c'est que le héros, lui, le journaliste, il n'est pas politique, c'est juste quelqu'un qui est outré par l'injustice dont il est témoin, mais la personne qui l'aide et qu'il va épouser est une femme communiste. Ils vont d'ailleurs se marier, il va lui l'épouser pour l'aider à ne pas être poursuivi par la police, elle. Mais je pense que ce mariage entre un libéral et une communiste, c'est tout à fait finalement une sorte de représentation du Front populaire qui était également fondé sur une alliance des libéraux et des communistes contre le fascisme. Alors après la guerre, quand l'édition américaine finalement paraît, c'en est beaucoup trop pour donc cet éditeur, et la femme n'est plus communiste, mais on découvre à la fin, soi-disant, qu'elle était dépravée pour avoir violé un mineur. Elle a plus fait l'objet d'une enquête policière pour ses affiliations politiques, mais d'une enquête de la brigade mondaine, etc., etc. Tout ça, c'est l'éditeur qui a lui-même trafiqué le texte de McCoy pour le rendre acceptable pour le public de 1948. Donc on voit qu'il a vraiment souffert, aussi bien en France qu'aux États-Unis, il a été terriblement maltraité par des éditeurs qui ne supportaient pas finalement son point de vue très personnel et assez engagé et la façon dont il vient de la littérature.
Et est-ce qu'il n'y a pas d'espoir de trouver le manuscrit original qu'il aurait envoyé à l'édition anglaise avant qu'eux y coupent ?
Je ne crois pas, parce que tout ce qu'on a, c'est grâce à ce monsieur que tu citais tout à l'heure, qui a fait un travail extraordinaire dans les années 60, Thomas Surin, qui a rassemblé finalement tout ce qui restait comme archives, lettres, manuscrits, et qui les a déposés à la bibliothèque de l'Université de Californie à Los Angeles, où se trouvent aujourd'hui toutes les archives McCoy. Et malheureusement, il n'y a pas ça dedans. Donc, il faut toujours rêver, hein, peut-être que si on va fouiller chez tel et tel éditeur, on trouvera un carver.
C'est ça, du côté de l'éditeur anglais, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver ?
Peut-être.
Face à ce sort de fiasco, McCoy va arrêter d'écrire pendant 10 ans, et c'est en fait par le biais du succès que va connaître la publication en France dans la série noire. Il va dire lui-même qu'il va ressusciter. C'est le numéro 4 de la mythique collection Série Noire. C'est le premier auteur vraiment américain qui est publié, puisque les premiers sont des Britanniques se faisant passer pour des Américains. Et il est alors comparé à Steinbeck et à Hemingway dans une sorte d'étrange triade. Ce livre est le réquisitoire le plus violent, le plus dépourvu d'espoir aussi, qui puisse être dressé contre ce qu'on appelle l'ordre établi. C'était la couverture, donc, dans la Série Noire. Selon Simone de Beauvoir, dans un article vraiment intéressant, elle évoque la capacité de cette littérature à représenter l'action et l'expérience brute, parler davantage aux jeunes auteurs français issus du maquis, de la prison ou des camps de concentration que la tradition de la princesse de Clèves et de Valérie, écrit-elle en 1947, et ce qui montre l'impact énorme qu'a pu avoir ses œuvres et surtout celle de McCoy. Et dans un article de la même année dans Vogue, on dit « Tous les gens bien informés parlent des écrivains américains et d'une curieuse trinité, Hemingway, Faulkner et McCoy. » Et les Américains ne savaient pas qui était McCoy. Donc ça, c'est quand même assez fascinant. Et ça montre bien ce dialogue transatlantique qu'on évoquait tantôt. C'est ce qui va se passer pour beaucoup de ces auteurs-là. Barry G. Ford, par exemple, va dire qu'il a découvert la littérature nord-américaine en France avec la Série Noire. C'est des choses dont il n'avait jamais entendu parler aux États-Unis. Dee Ford, qui va être l'auteur de la saga de Sailor et Lula, etc., etc., et qui va être un des grands noms du néo-noir, ça montre bien un peu le rôle qu'a pu jouer donc, la collection de Duhamel, et ça ressuscite donc McCoy, qui se relance à l'écriture dans un troisième chef-d'œuvre, qui est aussi publié dans votre édition, Kiss Tomorrow Goodbye.
Oui, alors entre-temps, il y a quand même eu un roman que tu as oublié, mais qui est important, qui est « J'aurais dû rester à la maison ».
Ah oui.
I Should Have Stayed Home, oui. Qui en fait, bon, est moins connu parce qu'il reprend de manière un peu moins spectaculaire les thématiques de « On achève bien les chevaux », puisqu'il s'agit encore des malheurs d'un couple de figurants dans le monde du cinéma hollywoodien. Là, il n'est plus question de marathon de danse, il s'agit plutôt de leur impossibilité à s'incruster dans le monde des studios et puis aussi de la répression dont la femme qui a un engagement politique pour essayer de défendre les figurants comme elle se retrouve victime. Donc je passe un peu rapidement sur ce roman, mais qui est un beau livre vraiment. McCoy a été obligé de réécrire à la fin parce que l'éditeur Knopf ne voulait pas le prendre autrement. À l'origine, ça devait se terminer par le suicide du personnage principal, qui est aussi le narrateur. Ça a été refusé en tant que tel, justement, parce qu'elle a dit « c'est un roman formidable », mais ça, il n'en est pas question. Et donc, ça a, une fois de plus, contraint le pauvre McCoy à publier une version différente du roman de celle qu'il aurait voulu voir, et qui est d'ailleurs, elle aussi, disparue.
Oui, oui, c'est un diptyque très intéressant. D'un côté, c'était le marathon, de l'autre, c'est vraiment Hollywood. Et ce que tu dis sur le fait de donner la parole aux figurants comme projet politique aussi. La phrase elle-même qui donne le titre est magnifique, tous les titres sont magnifiques.
C'est la quintessence du roman noir pour moi, j'aurais dû rester à la maison.
Non, complètement. Non, c'est génial, ça c'est l'art des titres, et on a fait bien les choses.
Ah oui, c'était un génial auteur de titres, et pour arriver donc à ce quatrième roman dont tu parles, le titre est absolument intraduisible en anglais et également splendide, Kiss Tomorrow Goodbye. Duhamel a fait un bel effort avec Adieu la vie, adieu l'amour, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est moins lapidaire. Et d'ailleurs, on a beau se creuser la cervelle, on ne trouve pas quelque chose de mieux que ça. Ouais. Mais oui, il y avait absolument le génie du titre. Alors, ce qui s'est passé, en effet, c'est qu'après l'échec de Un linceul n'a pas de poche en 1937 et ensuite l'échec également de J'aurais dû rester à la maison en 1938, qui est mal accueilli par la critique, qui ne se vend pas, McCoy, là, se décourage complètement et décide de se replier sur ses besognes de scénariste. D'ailleurs, là, il était également déçu parce qu'il aimait vraiment le cinéma. Il aurait aimé écrire pour de grands films et de grands metteurs en scène. Mais finalement, il n'en a pas eu beaucoup l'occasion. Et souvent, bon, son travail était un petit peu massacré. C'était rarement lui tout seul qui écrivait les scénarios, etc., etc. Donc, il s'est retrouvé, contrairement à Burnett, qui, lui, a tiré son épingle du jeu en tant que scénariste, plutôt frustré par son travail de scénariste. Et puis alors, en 47, il en a tellement marre de faire le scénariste qu'il décide de tout plaquer, il quitte son boulot et il recommence un roman, mais il n'y arrive pas, il dit qu'il avait perdu son énergie, son style, à force de faire des besognes de script et autres, il n'était plus capable d'écrire comme un vrai écrivain littéraire. Et tout d'un coup, à ce moment-là, effectivement, il y a ce miracle qui arrive dans sa vie, qui sont que des correspondants de journaux américains comme Vogue, ou même le New York Times à Paris, raconte que McCoy est célébré comme un grand écrivain par l'intelligentsia française, au même titre donc que Hemingway et Faulkner, ce qui paraît totalement délirant du point de vue d'un Américain, puisque McCoy c'était vraiment, il n'avait jamais eu la même image que Hemingway et Faulkner. Et d'ailleurs, il n'est toujours pas loin de là, hein, bien sûr. Il a été considéré au mieux comme un auteur de genre de bas étage et généralement, il était tout simplement inconnu. D'ailleurs, la correspondante de Vogue, c'est assez amusant, raconte que quand elle est allée à Paris dans les milieux style Saint-Germain-des-Prés et Gallimard, elle a été interrogée par Sartre et par Claude Edmond Magny, qui a écrit ce livre assez célèbre qui s'appelle « L'âge du roman américain ». Sur McCoy et qu'elle n'avait pas la moindre idée de qui était McCoy d'ailleurs. Et ce qui est amusant, c'est que quand ensuite McCoy lui-même écrit « Adieu la vie, adieu l'amour », il dédie ce roman à plusieurs personnes, dont cette dame Aline Talmé qui était de Vogue en l'appelant « Amiral des mers ». Alors personne n'a jamais compris pourquoi il l'appelait l'amiral des mers jusqu'à ce qu'elle explique que c'est en fait parce que c'était comme l'amiral d'un bateau qui aurait repéré un naufragé au loin et qui lui aurait sauvé la vie. Donc en rendant compte de cette Vogue qu'il a effectivement totalement regonflé à bloc, et là ça lui a donné une telle énergie qu'il a déchiré tout ce qu'il avait fait et repris son roman en disant « maintenant je vais l'écrire vraiment comme je veux, sans m'imposer aucune règle, je vais enfin pouvoir m'exprimer ». Et il produit un roman tout à fait extraordinaire, je pense, c'est avec « On achève bien les chevaux », peut-être le roman le plus important de sa production, parce qu'il est complètement hors norme. Pour la première fois, donc, on voit un tueur psychopathe raconter entièrement son histoire. Là, il revient un petit peu donc au vrai roman noir criminel de l'époque Black Mask, puisque le héros est un tueur et un bandit. Ça se situe dans les années 30, à l'époque des grands bandits, Jean Dillinger ou Pretty Boy Floyd. C'est un peu le même genre de personnage, sauf que c'est un personnage qui est à la fois fou et surdoué, qui développe toutes sortes de stratégies narratives bizarres, presque joyciennes, pour raconter son histoire, qui montre en même temps sa folie, à la fois qu'il est très intelligent, qu'il est un petit peu hors norme, et puis qu'il est fou. Et petit à petit, sa narration, d'une certaine façon, se disloque jusqu'à la fin, que je ne révélerai pas ici, mais qui anticipe, à mon avis, de manière assez géniale, ce que fera plus tard Jim Thompson dans ses romans comme « Le tueur qui est en moi » ou « The killer inside me »,« Hell of a woman ». On voit aussi le récit pris en charge par un tueur dont la psyché se désintègre d'une certaine façon au fur et à mesure du récit. Donc il fait ça, c'est un roman tout à fait extraordinaire là encore, mais malheureusement, une fois de plus, il n'aura pas de succès. Il est mal accueilli par la critique américaine. Certains en disent du bien en disant qu'il y a quelques belles scènes, mais des gens assez connus comme Nelson Algren le massacrent totalement.
Ça m'a particulièrement étonné parce que Nelson Algren, quand même, Donc, l'auteur de Walk in the Wild Side, qui donnera le titre à la célèbre chanson de la Velvet Underground, mais aussi The Man with the Golden Arm, etc., qui va être un des grands romanciers naturalistes américains, mais aussi dans le milieu un peu étrange des paperbacks, etc., qui va avoir une sensibilité très noire. Ça m'a étonné, cette incompréhension de la part de Al Green.
Oui, c'est méchant, et je pense que c'est peut-être lié au fait que c'était justement assez proche de ce qu'il faisait lui-même. Après tout, Al Green, c'était aussi l'amant de Simone de Beauvoir. Il n'était peut-être pas apprécié que McCoy soit apprécié, justement, en France. Et il traitait d'un matériau qui était un petit peu proche du sien, puisque Al Green aussi, c'est du roman social violent qui peut, par certains côtés, ressembler à celui de McCoy. Mais il se voyait comme un écrivain sérieux et pas comme un écrivain de genre, disons. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a eu à cœur de massacrer en termes très méchants. Il disait que c'était un homme des cavernes littéraires ou des trucs comme ça. Alors qu'au contraire, je pense que c'est un roman assez subtil et assez intelligent et qui mêle des registres très différents, aussi bien de violence et de scatologie que d'élaboration littéraire, d'une manière vraiment très originale que personne n'avait vraiment essayé de faire avant lui. Peut-être pas un roman parfait, mais un roman extrêmement audacieux. Tellement audacieux d'ailleurs qu'il avait aussi imaginé des audaces typographiques, comme par exemple pour montrer un petit peu l'espèce de bipolarité du personnage. Il y avait certaines pages où il avait coupé en deux la page et puis il y avait une partie de l'histoire à droite et une partie de l'histoire à gauche pour montrer que le personnage pouvait suivre deux choses en même temps. On reproduit une page du manuscrit comme ça qu'on a retrouvée dans les archives de UCLA, mais qui n'a pas été reproduite telle quelle dans l'édition américaine déjà. Donc, malheureusement, l'éditeur américain avait lui aussi un peu censuré ses audaces, mais voilà, il voulait mettre toutes les ressources, disons, du roman expérimental et d'avant-garde au service d'un genre qui était considéré comme culturellement bas et qui était le roman de gangster, le roman noir. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment une réussite assez extraordinaire qui anticipe donc, comme je dis, ce que fera après lui Jim Thompson.
Oui, c'est un tournant majeur dont tu parles dans tes autres livres sur le roman noir, c'est-à-dire c'est le moment où on passe du personnage du gangster au personnage du psychopathe. Le terme venait d'être introduit dans la psychiatrie de Mask of Sanity de Harry Clay de 1941. C'est vraiment le psychopathe qui va caractériser le roman noir de l'après-deuxième guerre mondiale. Et donc, ce n'est plus du tout la grande énergie, la grande forme, la grande vitalité du gangster initial des années 20-30, mais c'est justement la vision du outsider, de l'étranger finalement, les marginaux, donc le roman des marginaux, outsiders, déviants, délinquants, désaffiliés et autres misfits de tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'ordre établi, tu écris. C'est vraiment le tournant du genre lui-même qu'annonce McCoy. Dans un autre article, tu évoquais justement l'apparition de la figure du psychopathe dans le roman noir en lien avec les traumatismes de la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, sans avoir été lui traumatisé par la Deuxième Guerre, mais il avait été par la Première dans une certaine manière, c'est peut-être là le lien, non?
Il y a ça, et puis il y a le fait qu'il a été toujours extrêmement marginal. Je pense que où qu'il soit, il a toujours été perçu par les autres, même par son ami Burnett d'ailleurs, comme quelqu'un d'énigmatique et de malheureux. Et finalement, il a toujours été très conscient de sa propre marginalité sociale, culturelle. Et donc, il n'a pas eu de mal, je pense, à se projeter dans cette figure de marginal. Par ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que ce roman de la marginalité qui caractérise vraiment le roman noir des années 50, il ne concerne pas seulement le psychopathe dans le roman, mais aussi, par exemple, de nouveaux types de personnages, comme les homosexuels, qu'on voit pour la première fois représentés de manière positive. Il y a une scène assez étonnante de retournement, disons, idéologique dans ce roman, puisque le personnage narrateur, ce tueur psychopathe, entre à un moment dans une boîte homosexuelle clandestine et commence par avoir une réaction écœurée, donner une description extraordinairement homophobe et brutale du milieu où il se trouve, et puis tout d'un coup il a une sorte d'illumination, il dit mais en réalité c'est pas du tout ça, je me rends compte maintenant que finalement on a une grande identité, que d'abord il y a des pulsions homosexuelles chez tout individu et qu'ensuite ils sont comme moi parce que ce sont des rebelles à l'ordre social, la seule différence c'est que moi je tue et eux ils tuent pas, mais finalement on est pareil. Et c'est aussi l'époque où le roman homosexuel commence à émerger comme une forme de roman des marginaux aux États-Unis. Avant la guerre au contraire on avait toujours des positions extrêmement méprisantes à l'égard des homosexuels dans le roman noir. Donc il y a vraiment un changement de sensibilité qui se marque, y compris d'ailleurs chez McCoy dans d'autres romans plus anciens. Donc on a vraiment un changement de sensibilité qui s'inscrit dans ce texte et qui montre que le roman noir, finalement, c'est quelque chose pas du tout de stéréotypé, mais qui peut être très ouvert aussi dans certains cas, sous la plume de grands écrivains comme lui, à toutes sortes de nouvelles tendances et orientations qui commencent à s'exprimer, mais que la série noire censurera impitoyablement, puisque cette même scène, telle qu'elle est publiée à l'origine dans la traduction de Marcel Duhamel et Max Roth dans la série noire, elle est coupée, et on n'a que le début où il exprime son écœurement vis-à-vis des homosexuels autour de lui, mais on n'a pas la fin où, au contraire, il y a le renversement, et puis cette espèce d'empathie qu'il éprouve avec eux. Donc on voit comment la série noire, elle a aidé à construire le genre et à donner une perception, mais parfois au prix de déformations assez frappantes comme celle-là.
Pour se donner une idée de l'impact que pouvait avoir un tel livre à l'époque, le magazine Time écrit « Les cochonneries que McCoy écrit se rapprochent des graffitis de toilettes pour hommes ». C'est assez hallucinant quand même.
Un beau compliment.
Mais c'est parce que justement, il a ouvert les portes avant la Beat Generation, qui était en ce moment même en train de naître, mais finalement, on voit bien l'aspect réellement subversif de ces œuvres-là. Et on voit que finalement, pour nous, c'est parce que ces œuvres ont gagné quelque part la bataille culturelle, si on veut, et que pour nous, c'est étonnant de voir ces réactions contre cette littérature. Mais c'est parce que justement, il y avait un mur autour de ce qu'on pouvait exprimer, de ce qui pouvait être raconté, de ce qu'on voulait dire de l'Amérique. Parce que finalement, ce qu'on voit bien, c'est depuis toujours chez McCoy, c'est vraiment une sorte de rage assez forte contre la société finalement américaine.
Absolument. Une sorte de clairvoyance extraordinaire aussi, je trouve.
Et curieusement, dans l'édition américaine que tu évoquais, où il y a eu toutes sortes de transformations pour l'adapter au public des années 50, mais il y a quand même un paragraphe tout à fait fascinant que McCoy ajoute. Tu vas avoir un choc, Mike. Tu vas t'apercevoir que le gars qui devrait être de ton côté, le petit gars, est celui-là même qui est le plus acharné contre toi. Tu ne peux pas lui dire qu'il n'a pas de liberté d'expression parce qu'il pourra toujours te citer le cas de quelqu'un aux États-Unis qui a donné une conférence attaquant l'une de nos institutions sacrées sans être jeté dans un camp de concentration. Il oublie de mentionner que le lendemain, les journaux crucifient l'auteur de la conférence en question et que le comité des activités anti-américaines commence à lui souffler dans le cou et que tout à coup, il devient un hors-la-loi. La Gestapo et les camps sont-ils pires? Écrit en 1948, quand même très frappant.
Il a réussi à faire passer ça. Alors ça, c'est dans la deuxième édition, donc l'édition américaine d'Un linceul n'a pas de poche, qu'il a dû réécrire en partie avant qu'elle soit de nouveau massacrée par l'éditeur, mais qui est du coup un texte assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans l'image, évidemment, qui est totalement liée au contexte des années 40, puisque cette commission des activités anti-américaines, c'est celle qui commence à enquêter sur Hollywood après la guerre. Donc, on voit bien comment il continue à nourrir ses textes, même dans les circonstances difficiles, d'une espèce d'honnêteté viscérale, je pense, hein, et puis de position de non-conformiste, ce qu'il a toujours eu jusqu'à la fin de sa vie et qui fait son grand mérite.
This is Dynamite, c'est donc le dernier ouvrage dans votre anthologie. Encore une fois, c'est donc la guerre menée par un procureur contre le chef d'une puissante organisation mafieuse. Et c'est encore une autre grande figure du roman noir des années 50, c'est la figure du crime organisé qui finalement s'est complètement fusionné avec le capitalisme, avec la nouvelle élite managériale de l'après-guerre américaine, donc le célèbre syndicate, le syndicat. On ne parle plus donc de crime organisé, on parle du syndicat. C'est une enquête qui est en phase avec un événement majeur pour l'histoire du roman noir et la représentation aussi du crime aux États-Unis, c'est la commission d'Estes Kefauver sur le crime organisé et qui va donner lieu à toute une série de films, de romans, etc., qui évoquent cette nouvelle réalité d'un crime qui est absolument partout, qui plonge dans la classe politique, mais aussi dans les grandes compagnies et qui devient une sorte de structure bureaucratique extrêmement inquiétante et qui fait des États-Unis une sorte d'État criminel. Maintenant, on parle des narco-États pour les États associés au trafic de drogue, mais finalement, c'est une sorte d'État criminel. Et là encore, McCoy est aux premières loges de la représentation.
Oui, alors c'est un beau livre, effectivement. D'ailleurs, ce n'est même pas un livre, puisque à l'origine, c'était une histoire, une story, comme on dit, qu'il avait écrite pour en faire un film, mais qu'il a vraiment rédigé comme un roman, hein. Ça se lit tout à fait comme ça. Et ça a été proposé donc par son agent à la série noire, qu'il a publié sous ce titre, avant que ce soit même tourné, ou juste après peut-être, sous le titre de Perte et fracas. Le titre original de McCoy, c'était C'est de la dynamite, This is Dynamite. Donc ça sort en série noire en 1953, et dans le même temps, quand son agent le propose au même éditeur de poche qui avait publié le reste de son œuvre, il est refusé parce qu'il trouve que c'est trop schématique, que les personnages principaux sont pas assez vivants, et il lui demande de réécrire ce livre, ce qu'il ne fait pas. Je pense que ça n'intéressait pas beaucoup en réalité. Et donc, bizarrement, c'est un de ses livres qui n'existe qu'en français, puisque même s'il existe une version qui a été publiée après la mort de McCoy en 1959, sous le titre Corruption City, un texte qui a été trafiqué, là encore on ne sait pas par qui, il y a des personnages qui disparaissent, des scènes qui sont coupées, donc c'est un texte assez profondément dénaturé, un de plus, même après sa mort, le pauvre, par une main anonyme, et c'est un texte qui attend donc toujours une première publication telle qu'il a été écrit par McCoy en anglais. Ça en dit long d'ailleurs une fois de plus sur le peu d'intérêt que ces auteurs génèrent, même après le revival noir dont on parlait aux États-Unis. Alors pour revenir au thème, c'est effectivement tout à fait dans l'air du temps, 1950 et les auditions de Kefauver qui vraiment changent totalement la perception du crime, comme tu le disais, c'est un crime aussi national, c'est plus un crime local lié à telle ou telle ville, le syndicate c'est vraiment une sorte de consortium national du crime, avec ses têtes dans différents endroits, son organisation capitaliste et puis aussi son service de tueur, on peut presque dire, salarié de manière presque industrielle. Les gens ne se font plus justice à eux-mêmes et il y a des tueurs professionnels qui opèrent sur contrat, qui ne savent pas qui ils tuent ni pourquoi, mais simplement, enfin, savent qui ils tuent, mais ils ne savent pas pourquoi et ils savent que c'est un job qu'ils ont à faire et un point c'est tout. Donc ça devient une espèce de duplication de tout le capitalisme. Et qui imprègne aussi totalement tout ce qu'on peut appeler la structure de la cité, puisqu'on voit qu'aussi bien la juge de la cour suprême locale qu'un des policiers, qui d'ailleurs, c'est un peu la tragédie du roman, le père du procureur au grand cœur, sont également contaminés et sont également payés par ce système mafieux. C'est exactement d'ailleurs contemporain des grands romans de Burnett sur la même question, comme Asphalt Jungle, Little Men, Big World et Vanity Row, sa grande trilogie qui est consacrée à la même chose, tout à fait à la même époque. Et je pense qu'avec ces trois romans-là, c'est probablement ce qu'on a fait de mieux dans le genre, même s'il y a des parties effectivement un petit peu schématiques parce que c'était à l'origine destiné à être un film, donc il n'y a pas le même niveau d'expérimentation littéraire, il y a quand même des scènes d'action absolument formidables où on voit qu'il n'a rien perdu de son talent qu'il avait déjà à l'époque de Black Mask. Personne n'a jamais décrit de manière aussi efficace, à part Hammett, peut-être un hold-up que McCoy, je trouve. Il y a des scènes tout à fait étonnantes où les gangsters prennent des masques à l'effigie d'Hitler pour aller commettre un cambriolage, par exemple. Il y a toutes sortes de trouvailles comme ça qui sont absolument étonnantes.
Une scène qui n'a d'ailleurs jamais été filmée, que je sache, et qui serait tout à fait anthologique. C'est vraiment une grande œuvre, donc cette nouvelle édition. C'est un nouveau Horace McCoy, à la fois, comme on l'a dit, à cause de la restitution des textes originaux dans les traductions, mais aussi dans le choix des textes. Il y a aussi, n'oublions pas, des nouvelles qui se retrouvent.
Oui, alors ça c'est important, il y en a 10, et 8 sur 10 sont totalement inédites en français, et je pense qu'elles montrent bien tous les talents de McCoy dans des genres différents qui vont du polar au western. Il y a même une première version de « On achète bien les chevaux » qui était sous forme de nouvelles. Enfin, il y a toutes sortes de choses absolument passionnantes qui permettent de mieux comprendre les différentes facettes de son talent.
Tu as aussi réédité Les Rangers du Ciel dans une nouvelle édition qui incorpore des textes qui étaient inédits, etc. etc.
Oui, parce qu'il y avait eu une édition autrefois dans le livre de poche, mais qui était incomplète, qui n'était pas placée non plus dans l'ordre chronologique. Et donc là, on a fait une édition complète. Il manquait deux nouvelles qui n'avaient jamais été traduites, dont la dernière. Et donc, ça fait vraiment un cycle romanesque assez imposant. Il y a 750 pages et qui se lit comme on lit Alexandre Dumas. C'est tout à fait passionnant, je trouve.
Alors aussi, comme je disais, l'appareil critique, la chronologie, les introductions au texte, etc. Il y a une filmographie. N'oublions pas que Kiss Tomorrow Goodbye a été réalisé en 1950. Un film intéressant, évidemment très censuré par rapport au roman, mais quand même intéressant, avec James Cagney qui était comme l'emblème total du gangster et qui d'ailleurs incarne le gangster psychopathe, le tournant du gangster en psychopathe. Le film de Turning Point dont on vient de parler, le très beau film de 69 dont On achève bien les chevaux de Sidney Pollack, quand même assez impressionnant, un des grands films du néo-noir, du retour du noir avec Bonnie and Clyde l'année d'avant, d'Arthur Penn, et puis un film quand même assez décevant malgré tout, malgré qu'on aurait aimé l'aimer, mais Un linceul n'a pas de poche de Jean-Pierre Mocky en 74 qui semble presque une sorte de caricature du roman original, mais il y a quand même quelques grandes gueules du cinéma américain, quelques répliques assez sympas, mais malheureusement, c'est un petit peu...
On est assez loin de l'original, disons là.
Oui, exact. Or, ce serait vraiment un magnifique roman à adapter en vrai. Et c'est vrai que c'est très dommage qu'il y ait cette méconnaissance, peut-être que grâce au fait, finalement, des éditions comme ce que tu viens de faire, Bah, peut-être que ça va nourrir tout un renouveau d'intérêt pour la figure, on l'espère. Et on espère aussi que tu vas continuer à exhumer des grandes figures du roman noir. Est-ce qu'il y a d'autres quartos hard-boiled en perspective?
Oui, mais je ne peux pas encore dire lesquels.
Non, mais là, on a un scoop, c'est qu'il y en a plusieurs, donc ça me fait un grand plaisir. On attend avec grande impatience la suite de cette redécouverte. Non seulement redécouverte, mais je pense aussi, comme tu le disais tantôt, de redonner sa vraie place à ses œuvres qui sont parmi les plus marquantes de la littérature du XXe siècle, il faut le dire. Pour le cas de On achève bien les chevaux, c'est un roman qu'on ne peut pas oublier. Et un grand merci pour tout ce travail. Ça ne va pas être facile non plus de faire ces grandes éditions.
J'avoue que moi, je suis content comme un poisson dans l'eau quand je peux travailler sur des choses comme ça.
Super. Et nous, de lire. Merci encore, Benoît. Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Et on se retrouvera bientôt pour un autre épisode de Pop en Stock.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.